Radio Prague, les informations. Bonjour, la justice suisse a rejeté le recours du gouvernement tchèque dans l'affaire de la privatisation de la société minière de Most. Selon le président Václav Klaus, le procès de Vidbirta nuit au système politique tchèque. Et puis enfin, l'ONG L'Homme en détresse a décerné un prix aux médecins syriens en clandestinité. Comme annoncé en titre, la justice suisse a donc rejeté le recours du gouvernement tchèque qui souhaitait se porter partie plaignante dans le procès mettant en cause 6 hommes d'affaires tchèques et un belge impliqués dans la privatisation douteuse à la fin des années 1990 de la société minière de Most en Bohême du Nord, Mostecká uhelná společnost. Celle-ci est une des plus importantes sociétés énergétiques tchèques. Les 7 inculpés sont accusés de blanchiment d'argent aggravé et de criminalité économique. En octobre dernier, 600 millions de francs suisses répartis sur une centaine de comptes bancaires ont été bloqués par les autorités helvétiques. La République tchèque, dont la justice avait pourtant classé l'affaire en 2008, entend récupérer une partie de cet argent, soit environ 150 millions de francs suisses. Le ministère public de la Confédération helvétique enquête sur cette importante affaire financière depuis 2005. Le procès se tiendra dans quelques mois au tribunal pénal fédéral de Belinzon. Les noms d'anciens responsables politiques tchèques figurent également dans ce scandale. Un reality show absurde, c'est en ces termes que le président de la République, Václav Klaus, a qualifié le procès de Vidbirta, chef du groupe parlementaire du parti Affaires publiques et personnage influent de la vie politique tchèque, mis en cause dans une affaire de corruption au sein des Affaires publiques, un des 3 partis de la coalition gouvernementale. Vidbirta risque jusqu'à 6 ans de prison. Le procès, suivi de près par les médias nationaux, a commencé lundi à Prague et se terminera vendredi. Václav Klaus estime que ce procès a, je cite, un effet dévastateur sur le système politique tchèque. Le prix Homo Homini a été décerné mardi à Prague en ouverture du festival du film documentaire sur les droits de l'homme Jeden Svět, un monde, au médecin syrien de l'organisation Médecins de Damas. Ce groupe de médecins travaille clandestinement afin de secourir les manifestants blessés par les forces de sécurité syriennes. Depuis mars 2011, les protestations contre le régime de Bachar el-Assad ont fait plus de 7500 victimes. L'assistance accordée dans la clandestinité par les médecins syriens de l'organisation Médecins de Damas, au risque de leur vie et de leur liberté, est d'une importance extraordinaire, a déclaré Shimon Panek, directeur de l'ONG L'Homme en détresse, Tchovek Tisny, qui décerne le prix Homo Homini depuis 1995. La République tchèque va recevoir 100 millions de couronnes de l'Union européenne pour l'année scolaire 2012-2013 dans le cadre du programme Fruits et légumes à l'école. L'information a été communiquée ce mercredi par la Commission européenne. Au total, 90 millions d'euros sont distribués aux pays européens, dont 20 millions à l'Italie, pays bénéficiant de l'aide la plus importante. Les États membres sont tenus de cofinancer ce programme dans le cadre de la République tchèque à hauteur de 73%. Lancé en 2009, le programme a pour but d'augmenter la consommation de fruits et légumes en distribuant gratuitement ceux-ci aux élèves des écoles maternelles et primaires. L'usine d'Oskar Schindler, dans laquelle l'industriel allemand né en Moravie organisait le sauvetage de plus d'un millier de juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, est menacée de démolition. Une partie de l'usine, située dans la ville de Brněnec en Bohême de l'Est, doit être démolie en raison de son mauvais état. Les travaux de démolition pourraient également concerner les autres bâtiments. Selon le quotidien Mladá Fronta Dnes, l'Institut Héritage chercherait toutefois à faire classer le site au patrimoine culturel du pays et chercherait à établir si l'état d'une partie des bâtiments permettrait de les sauver de la démolition. Le maire de Brněnec espère obtenir l'ouverture d'un musée qui rappellerait le rôle d'Oskar Schindler et de l'usine dans le sauvetage des Juifs. On termine avec un mot de météo. C'est un temps très nuageux qui règne sur l'essentiel du territoire ce jeudi, jour de la fête des Gabriella. Quelques averses et faibles chutes de neige sont également prévues. Les températures varient entre 2 et 6 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite qui vous est présentée par Paul Bauer. Faits et événements en République tchèque.
Les Allemands Sudètes veulent s'inviter dans les discussions intergouvernementales germano-tchèques. première tchèque de Gloriana de Benjamin Britten, opéra sur la reine Elisabeth Ier d'Angleterre au Théâtre National de Prague. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission. La suite sera réservée à la rubrique « Chapitres de l'Histoire », dans le cadre de laquelle Jarka Gessiblova vous présentera les œuvres que Bénédicte Rieth, architecte à la cour de Vladislav Jagellon, a laissées dans la ville de Louny. Merci d'avoir choisi Radio Prague et de rester en notre compagnie. Bonne écoute. Le ministre des Affaires étrangères allemand Guido Westerwelle était invité ce mardi dans la capitale tchèque afin de célébrer le 20e anniversaire de la déclaration germano-tchécoslovaque signée en février 1992. Bert Posselt, le représentant de la Sudetendeutsche Landsmannschaft, la plus grande organisation des Allemands sudètes en Allemagne, a profité de l'occasion pour demander au chef de la diplomatie allemande, lors de son passage à Prague, de transmettre une demande de contact officiel direct avec le gouvernement tchèque. Le ministre allemand s'est bien gardé de le faire. Les détails avec Paul Bauer.
Dans la foulée de la conférence interministérielle sur le partenariat oriental de l'Union européenne qui s'est tenue à Prague en début de semaine, les autorités tchèques ont invité le ministre des Affaires étrangères allemand et son homologue slovaque à se rendre à la célébration au Sénat tchèque des 20 ans de la déclaration germano-tchécoslovaque. Cette déclaration avait pour objectif de dénouer le contentieux qui opposait l'Allemagne et la Tchécoslovaquie au sujet du passé germano-tchécoslovaque, dans le cadre de l'Europe élargie. C'est ce qu'a rappelé le ministre des Affaires étrangères tchèque, Karel Schwarzenberg. On l'écoute.
De ce point de vue, la déclaration germano-tchèque était significative. Elle a permis de remplir les objectifs de sécurité de la Tchécoslovaquie d'après novembre 1989 dans le processus de la transformation de l'Europe. La déclaration a permis la formulation d'une nouvelle relation au sein du voisinage européen. À la même époque, la société européenne se transformait, ce qui a permis la mise en contact de l'Allemagne et de la Tchécoslovaquie, puis de la République tchèque. Les États ont reconnu, partagé les mêmes valeurs et les mêmes intérêts, permettant de dépasser les stéréotypes des époques précédentes et par la même occasion, ouvrant un espace d'intérêt commun pour la République tchèque et l'Allemagne.
Même son de cloche de la part du ministre des Affaires étrangères allemand, Guido Westerwelle, qui a pour sa part rappelé le travail réalisé par la jeunesse de l'Allemagne, la Slovaquie et la République tchèque dans le renforcement des relations entre les trois pays depuis 1989 dans la perspective de l'élargissement européen. Laisser le passé aux historiens et se tourner vers l'avenir européen, tels étaient les axes ouverts par les hommes politiques de la signature en 1992, parmi lesquels les défunts Václav Havel et Jerzy Dinsbier, axes que les dirigeants actuels des deux pays souhaitent suivre et renforcer. Il s'agit en effet de rendre les relations germano-tchèques indépendantes des relations des Allemands sudètes. Le retour sur les passés est pourtant ce que souhaite le principal représentant Bernd Posselt, président de la puissante association Sudetenlandsmannschaft, qui a profité du 20e anniversaire germano-tchèque pour demander au ministre des Affaires étrangères allemand d'obtenir pour son association un contact direct avec le gouvernement tchèque. L'occasion pour lui de rappeler également dans la presse que le gouvernement tchèque se devait d'instaurer un dialogue direct avec les Allemands sudètes sur l'histoire commune, arguant, je cite, que seuls ceux qui connaissent leur histoire peuvent se projeter dans l'avenir. Fin de citation. L'historien et germaniste de l'Université de Strasbourg, Christian Jacques, est spécialiste de l'histoire des populations germanophones des pays tchèques. Il rappelle que les discours de Bernd Posselt s'inscrivent avant tout dans le contexte politique allemand stricto sensu. On l'écoute.
Il s'agit avant tout de lire ces déclarations dans le contexte politique allemand, à mon avis. L'Association des Allemands des Sudètes est une institution en perte de vitesse au niveau de la société allemande. Il s'agit de toute évidence pour son représentant de se rappeler à l'opinion publique allemande.
À l'occasion de leur rencontre, les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont bien gardés d'aborder la question sudète, préférant mentionner le fait que jamais dans l'histoire des deux pays les relations avaient été aussi bonnes. Le Sénat tchèque avait invité le président de l'association sudète, Bernd Posselt, à participer au 20e anniversaire de la déclaration germano-tchèque. Ce dernier a toutefois annoncé qu'il ne s'y rendrait pas en raison d'un emploi du temps chargé.
En 1953, il y a eu à Covent Garden à Londres la première mondiale de l'opéra Gloriana, créée par Benjamin Britten, à l'occasion du couronnement de la reine Elisabeth II. L'opéra raconte quelques événements de la vie et du règne d'Elisabeth Ier, un des personnages les plus marquants de l'histoire d'Angleterre et d'Europe, souveraine quasi mythique, entrée dans l'histoire parce qu'elle a su vaincre ses passions. L'intrigue principale de l'opéra est la liaison passionnée et orageuse entre la reine et le comte des sexes. Samedi dernier a eu lieu au Théâtre National de Prague la première tchèque de cette œuvre. C'est sur une scène dépouillée ou dans de sobres décors géométriques, donc dans un espace quasi abstrait, que se joue le drame d'une femme qui a sacrifié sa vie à la couronne. Les costumes historiques splendides situent cependant l'action sans équivoque à l'époque élisabéthaine. Une énorme couronne est suspendue au-dessus des personnages sur la scène et menace de les écraser de son poids. Jiří Herman, metteur en scène de Gloriana au Théâtre National, ne cache pas la fascination exercée sur lui par la reine Elisabeth. Pour faire mieux comprendre sa conception du personnage, il cite une phrase de la prière que la reine adresse à Dieu à la fin du premier acte de l'opéra. « Seigneur, renforce en moi, qui ne suis qu'une femme fragile, le cœur d'homme. »
La reine a hérité de la couronne, mais elle n'en est pas moins un être humain, une femme qui mène un combat perpétuel dans son fort intérieur. Elle doit prendre des décisions très graves à l'époque des conflits religieux entre l'Église catholique et l'Église protestante, mais doit faire face aussi à des conflits humains, à des intrigues de la cour.
Le spectateur assiste au drame d'une reine qui n'est pas dépourvue de faiblesse humaine et finit par faire exécuter l'homme qu'elle aime, mais qui s'est insurgé contre elle. Le drame politique se confond ici avec la tragédie sentimentale. Il n'est pas facile de comprendre cette liaison compliquée et délicate qui existait entre Elisabeth et Robert Devereux, comte d'Essex. Benjamin Britten et son librettiste William Plomer ont largement exploité le roman historique Elisabeth et Essex de Lytton Strachey. Les lois de l'opéra, drame musical, les ont obligés cependant à simplifier et à modifier certaines situations et événements historiques. En créant cet opéra, Benjamin Britten a largement puisé aussi dans les sources musicales élisabéthaines. Le chef d'orchestre qui dirige l'opéra Gloriana au Théâtre National, Zbigniew Müller, souligne la noblesse et l'élégance de cette musique pleine d'inventions.
Ce qui caractérise Gloriana, c'est le style qui marie des éléments anciens et modernes. C'est l'histoire d'Elisabeth Ier, dédiée à Elisabeth II, et l'opéra exploite donc toutes les possibilités du langage musical de la première moitié du XXe siècle en les combinant avec les éléments archaïsants de la musique renaissance. Je dirais néanmoins que le compositeur dépouille progressivement la trame musicale de ce qui est nouveau et moderne et nous transporte dans l'histoire.
La chanteuse allemande Gunbrit Barkmin a accepté de chanter Elisabeth sur la scène du Théâtre National, bien que l'étendue de sa voix ne corresponde pas tout à fait à la tessiture de ce rôle. Elle est pleine d'admiration pour le personnage qu'elle incarne.
She was such a fantastic, strong woman.
Elisabeth était une femme merveilleuse et forte. Nous pourrions tous tirer des leçons de sa vie. Dans les circonstances de son époque, elle était obligée d'envoyer des hommes à la guerre. Elle devait faire exécuter ses ennemis. Elle était toujours obligée de lutter contre quelqu'un. Elle devait être sans cesse très astucieuse et très prévoyante. Ce que nous pourrions apprendre d'elle, c'est sa discipline et son intégrité. À mon avis, c'était une femme moderne.
Le public de la première a remercié les artistes de cette production par de longs applaudissements. Les jugements des critiques sont beaucoup plus nuancés. Ils reprochent à cette production son caractère statique et parfois aussi un manque de tension dramatique, sans pouvoir nier ses indubitables qualités musicales et esthétiques. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. 560 ans se sont écoulés depuis la naissance de Benedikt Ried, architecte d'origine allemande à la cour du roi Vladislav Jagellon. Ried s'est inscrit dans l'histoire en tant que représentant du gothique tardif, appelé en bohème gothique jagellonien. La voûte de Ried, c'est un extraordinaire lacis de nervures formant des motifs décoratifs aériens en rosace. La salle Vladislas au château de Prague est la réalisation la plus connue de Ried, outre l'église Sainte-Barbe de Kutná-Hora et l'église Saint-Nicolas de Louny, où Jarka Gisiblova a invité au micro Jan Mareš, historien des archives de Louny.
chapitre de l'histoire.
Située au cœur de l'ancienne ville royale de Louny et établie sur un promontoire, l'église Saint-Nicolas surprend par ses dimensions, par sa tour massive haute de 65 mètres, construite au XIIIe siècle pour abriter le trésor, et par ses trois flèches élancées qui surmontent la toiture. La question qui se pose est de savoir pourquoi une construction aussi monumentale dans un bourg relativement petit. On écoute Jan Mareš.
Ve 13. století, když města Litoměřice a Žatec existovala, co by
Depuis le 13e siècle, deux villes aux alentours, Litoměřice et Žatec, possèdent un château, résidence royale des Přemyslides, alors que dans la partie basse de l'Elbe, qui est une porte de la Bohème centrale, un lieu fortifié fait défaut. C'est ainsi que le roi Přemysl Otakar II décide, autour de l'an 1260, de fonder près du village de Luna une ville qui s'appellera Louny. La première chose à laquelle on pense en fondant une ville au Moyen Âge est de la doter d'une église.
L'église de Louny est dédiée à Saint-Nicolas, patron des commerçants. Au Moyen-Âge, Louny est un important carrefour de voies commerciales, l'une reliant Prague à la Saxe, l'autre conduisant vers Nuremberg. Centre spirituel de la ville, l'église est depuis la moitié du XVe siècle placée sous le patronage des bourgeois de Louny. Lorsqu'un incendie survenu en 1517 ravage la ville en détruisant l'église, dont il ne subsiste que les murs extérieurs et la tour, les bourgeois ne pas organiser une collecte dont les recettes seront reversées au profit du renouveau de l'église. L'année 1517 est une année de renaissance de l'édifice. Pour sa réfection, l'on y fait appel au meilleur bâtisseur de l'époque, raconte Jan Mareš.
On fait appel au tailleur de pierre Benedict Reed, architecte de renom et auteur de nombreuses réalisations au château de Prague, dont la majestueuse salle Vladislas du Vieux Palais Royal, lieu de couronnement des rois et qui sert désormais de lieu d'investiture du président de la République. Reed a reconstruit les fortifications du château de Prague, rénové l'hôtel de ville de la nouvelle ville pragoise. On lui doit également l'église Sainte-Barbe de Kutná Hora et l'un des palais du château de Blatná. À Louny, Reed se charge de la conception architectonique et de l'élaboration du projet de rénovation de l'église Saint-Nicolas. Ses compagnons sont notamment le tailleur de pierre Philippe Parleš et le maître d'œuvre Pavel de Pardubice.
En 1520, les fondations d'une nouvelle église sont posées. La construction est achevée en 1538 après 18 ans de travaux, du moins en ce qui concerne la maçonnerie et les éléments en pierre.
Tady jsme v interiéru, který odpovídá naprosto představám.
L'espace intérieur de l'église correspond pleinement au concept du style gothique tardif, qui est, dans ce cas précis, influencé par la contréforme saxonne. On aperçoit la très belle salle à trois nefs qui abandonne le principe de séparation des nefs latérales de la nef centrale. C'est un espace parfaitement uni, répondant aux revendications de la pensée religieuse de l'époque, pouvoir se rassembler en un seul espace ouvert pour entendre un sermon, une messe. À la différence des églises baroques, la chaire est située au milieu de la nef centrale, sur une colonne entre les bancs, signe du mode de pastoration pratique, ayant pour but d'être le plus près des croyants.
Les bourgeois de Louny continuent à accorder leur protection à l'église rénovée, ce qui se manifeste notamment dans sa riche décoration. Ils ne lésinent pas sur les moyens financiers pour acheter des graduels, recueils de chants propres de chaque messe. Trois précieux graduels du XVIe siècle sont gardés dans les archives de Louny, comme le raconte Jan Mareš.
L'aspect actuel de l'église est façonné dans les années 30 du XVIe siècle. L'édifice est doté d'une très belle voûte à nervures entrelacées. Le décor est caractérisé par une grande virtuosité de la taille de la pierre. Il évolue vers un ornement exubérant, les rosaces se font plus aériennes et l'ogive cesse d'être un système de support. Les colonnes sont remplacées par les nervures. La voûte d'ogive décorative est le résultat du jet du tailleur de pierre avec le matériel et l'espace sphérique. le résultat de sa maîtrise.
L'image change de façon dramatique lorsqu'on regarde le presbytérium. On y aperçoit une immense masse de bois avec lequel sont faits les trois retables baroques. Le bois de couleur foncée et sans peinture ou polychromie quelconque. Pillé et détruit durant la guerre de 30 ans, la ville de Launay procède 50 ans plus tard à un nouvel investissement, la réalisation des retables, l'investissement le plus important depuis la construction de l'église. On écoute Jan Mareš.
Toujours autant fiers de leur ville, les habitants de Launay font à nouveau appel aux meilleurs artistes de l'époque. Ils s'adressent à Marc Nennmacher, ébéniste à la cour royale, qui demande la participation de ses collègues Jeronim Kohl et František Price, deux figures marquantes du baroque tchèque. Sculptés entre les années 1701 et 1704, les retables sont en bois d'origine. Faute de moyens, la ville a dû renoncer au plan d'ornement des retables de peinture et de polychromie. Grâce à cela, on est impressionné par le contraste entre l'art gothique, beau, élégant et en quelque sorte austère, d'une part, et le baroque joyeux, imposant, épanoui, de l'autre. Il s'agit vraiment d'une chose unique qu'on ne trouve pas souvent dans d'autres églises.
Classée au patrimoine culturel national, l'église de Launay compte parmi les œuvres majeures de l'architecture sacrale flamboyante en bohème. Une autre réalisation de Benedict Reed, l'église Sainte-Barbe de Kutná Hora, est quant à elle l'un des 12 sites tchèques inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Finalement, l'œuvre la plus connue de Reed, la salle Vladislas au château de Prague, est réputée pour sa voûte, composée de 5 parties reliées entre elles par un jeu continu de nervures arrondies et segmentées, un plafond qui semble comme suspendu dans les airs en raison de l'absence de colonne centrale. Par ses dimensions imposantes, 62 mètres de longueur sur 16 mètres de largeur et 13 mètres de hauteur, cet espace était au moment de son achèvement, en 1502, la plus grande salle séculière de l'Europe centrale. Benedict Reed, connu aussi sous le nom de Reid en tchèque, meurt à Launay le 30 octobre 1534 au milieu des travaux de l'église Saint-Nicolas où il est inhumé.
C'était donc la rubrique chapitre de l'histoire que Jarka Gisiblova a consacrée à l'œuvre de l'architecte Dominik Reed. Merci d'avoir suivi cette émission et de rester fidèle à Radio Prague. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.